Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bienvenue dans Vivante Église. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lucie et Marthe, membres engagés de la fraternité Notre-Dame Mère de la Lumière, ou NDML, fondée en 2011. Cette fraternité catholique rayonne par sa mission d'évangélisation nouvelle, son attachement à la prière du chapelet, son action auprès des plus démunis et son désir profond de former ses membres à vivre pleinement l'Évangile. Au cours de cette première partie de cette émission Vivante Église, nous allons découvrir ce qui anime profondément cette petite fraternité, ses missions concrètes, les fruits et son rayonnement, notamment à travers des initiatives modernes comme leur présence sur la chaîne YouTube avec l'émission Carrément Bien. Bonjour Lucie et Marthe.
Bonjour Nathalie.
Bonjour et bonjour à eux deux. Alors c'est en cœur, alors bienvenue dans ce Vivante Église aujourd'hui et c'est un grand plaisir et merci d'avoir dit oui. Alors comment présenter, donc en quelques minutes, je vous donne à toutes les deux un petit quart d'heure pour entrer pleinement dans un peu cet appel que vous avez reçu et on va vous découvrir aussi en deuxième partie avec vos témoignages respectifs. La fraternité Notre-Dame de la Lumière, connue aussi sous le nom de NDML. Voilà, c'est à vous, c'est vous qui commencez, Marthe. Et merci.
Avec plaisir. Et bien, en fait, on était à la base 7 jeunes qui n'avaient pas forcément la foi. Et puis, la même année, on a vécu des conversions dans des lieux extrêmement différents. L'un d'entre nous, c'était à Lourdes, justement, là où on se trouve maintenant. D'autres, c'était à Medjugorje. Moi, c'était dans ma chambre étudiante. Enfin, vraiment, dans des lieux divers, le Seigneur nous a rejoints là où on était. Et on a eu la même intuition de se dire, mais cette foi que je découvre, je ne peux pas rester seule avec ça. Enfin, un chrétien isolé est en danger. Et donc, il faut que je rencontre d'autres jeunes qui ont la foi. Et c'est là qu'on a eu cette idée d'aller à l'aumônerie étudiante. Il y avait une aumônerie étudiante pour tous les chrétiens. Et on a entendu les témoignages des uns et des autres. Et on s'est dit, mais ton témoignage me rejoint et moi aussi j'ai un désir de plus avec Dieu, de mieux le connaître, parce que finalement ce Jésus que j'ai rencontré, je ne le connais pas, j'aimerais en savoir plus. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à prier ensemble. Alors le chapelet une fois par semaine, c'était déjà une montagne pour nous, puis aller à la messe de temps en temps, et puis chanter Dieu, et puis lire la parole de Dieu, parce que comme dit saint Jérôme, si on ne connaît pas les Écritures, on ne connaît pas le Christ. Donc, on a commencé à lire la Bible. Alors, il y a des passages qu'on ne comprenait pas. Et puis, en échangeant, voilà, les choses devenaient plus claires. Et c'est comme, en fait, des tiroirs qui se remplissaient. On avait une telle soif de Dieu. C'était magnifique. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, mais ce qu'on a découvert, on ne peut pas le garder pour nous, finalement. C'est tellement beau, c'est tellement riche, ça nous rend tellement heureux. Alors, on a commencé à raconter autour de nous, à témoigner autour de nous, aller dans les rues, partager ce qu'on vivait, aux gens qu'on rencontrait. Et puis aussi aux plus pauvres, parce que très rapidement, on s'est dit, mais dans cette parole de Dieu, il est dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les pauvres? Pas grand-chose. Et on a commencé à se diriger vers les sans-abri. Et de là est née notre association, parce que au bout d'un moment, on ne peut plus œuvrer tout seul. Il y avait des fonds qui venaient pour nous aider à aider les pauvres. Donc on s'est dit, il faut faire une association. Et c'est là qu'en 2011 est née l'association Notre-Dame Mère de la Lumière, qui est une association catholique, qui œuvre pour l'évangélisation et l'aide des plus pauvres et qui a été fondée par ces 7 jeunes du départ qui sont toujours très engagés et puis bien sûr beaucoup d'autres personnes nous ont rejoints et on s'est confié très rapidement vraiment à la protection de la Vierge Marie avec ce nom Notre-Dame Mère de la Lumière mais Marie qui nous conduit à Jésus parce qu'il n'y a qu'une lumière, c'est Notre-Dame Mère de la Lumière et Jésus est la lumière, il l'a dit, hein, je suis la lumière du monde mais vous aussi vous êtes appelés à être la lumière du monde, c'est-à-dire que nous aussi rempli de cette lumière du Christ, on veut rayonner partout autour de nous, dans notre milieu de travail, dans notre quotidien, la joie d'être aimé de Dieu, la joie d'être chrétien, en toute simplicité, tel qu'on est, on veut partager du bonheur au monde. Et ce bonheur nous vient de Dieu. Dieu est amour et il nous comble de joie. Il veut. Voilà, aujourd'hui, on est dans un monde aussi qui se désespère, il faut le dire, avec toutes sortes de tristesse, d'épreuves. Chaque personne vit des épreuves et on a besoin de se soutenir les uns les autres et c'est Dieu le premier qui nous soutient pour ensuite nous aider à porter nos frères qui sont autour de nous Et donc, bah, partout où on est, on veut répandre cette bonne odeur du Christ, cette joie, ce partage, cet amour auprès des plus pauvres, mais aussi de nos collègues, tous ceux qui sont dans le besoin.
Alors, merci. On va rejoindre un peu Lucie en complément pour que nos auditeurs et dans cette émission de Vivante Église vous découvrent. Vous avez parlé aussi de ce service, de cet appel, donc évangélisation. Quand vous parlez de service, vous parlez aussi des plus pauvres, des sans-abri. Concrètement, est-ce que vous pouvez aller plus loin sur les missions bien spécifiques que vous avez, je dirais, presque au quotidien, dans la vie ordinaire de tous les jours ? Et merci à vous, Lucie.
Oui, tout à fait. Alors, on a une action en faveur des sans-abri de la ville de Caen, où nous faisons des maraudes régulièrement, voilà, pour apporter de la nourriture, des vêtements, et puis apporter la présence du Christ également. Il y a aussi toute une action humanitaire au Liban. Donc, c'est Marthe qui était chargée de la mener à bien, et on aide plus de 600 familles tous les mois, à tout point de vue, ça depuis déjà quelques années. On a aussi une action humanitaire au Congo-Kinshasa, pour aider à la construction, à la reconstruction d'un orphelinat, etc., plusieurs actions. On a aussi mis en œuvre une action en faveur des personnes prostituées de la ville de Caen. Et cette action, donc concrètement, eh bien, on allait faire des maraudes auprès des camionnettes sur les rives de l'Orne à Caen. On rencontrait les jeunes femmes et on leur proposait, eh bien, très simplement de les aider grâce à une levée de fonds. On avait des moyens financiers pour leur permettre, eh bien, de ne plus être obligés de se prostituer et le temps ensuite de les rediriger aussi pour socialement être prises en charge. Et ça, ça a été vraiment très fort parce que eh bien, plusieurs femmes sont vraiment sorties de la prostitution et ont arrêté. À l'heure actuelle, plusieurs ont maintenant un travail, elles ont obtenu leurs papiers. Et je me souviens encore quand on est allé les voir, on a vidé les camionnettes, c'était impressionnant, nettoyer tout ça. Et ouais, c'est impressionnant de voir que maintenant elles sont debout et elles ne sont plus dans ces péchés-là, quoi. Donc ça, c'est très fort.
Alors, vous avez aussi, vous menez des actions sur les réseaux sociaux. Ça fait partie aussi, est-ce que, je fais un raccourci, est-ce que c'est aussi une des missions de MDML, de l'association Notre-Dame de la Lumière ? Et vous allez nous présenter un peu ces missions sur les réseaux sociaux.
Bah, bien sûr, parce que oui, vraiment, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de la vie courante des gens, et particulièrement aussi les jeunes. Ils y passent énormément de temps.
Donc, les générations.
Et toutes les générations.
Mais vrai.
Oh, oui, bien sûr. Mais bien sûr, maintenant.
Bien sûr. Face aux parents, je pense aussi à des grands-parents. Ils sont très branchés aussi et très connectés sur les réseaux sociaux.
C'est vrai. On y passe beaucoup de temps. Donc, c'est un lieu aussi où, en tant que chrétien, on doit être présent. Et puis, on voit tellement de choses. C'est vrai, il y a toutes sortes de choses. Ça défile. Et donc, c'est important aussi de passer aussi des messages positifs, des messages de joie, des messages chrétiens sur ces milieux-là. Et donc, on a lancé pas mal d'émissions, pas mal de projets. Alors, comme vous disiez, Nathalie, on a lancé une émission qui s'appelle Carrément Bien sur YouTube, qui marche très, très bien. On a des vidéos qui ont fait des millions de vues. En fait, on interviewe des gens qui ont fait des rencontres extraordinaires avec le Christ dans le monde entier. Et donc, il y a toutes sortes d'interviews, et c'est Lucie qui s'occupe de ça. Elle pourra peut-être donner quelques témoignages sur ça.
Quelques témoignages peut-être, car c'est une vraie mission. Donc, et les auditeurs, chers auditeurs de Vivante Église, je donnerai donc les références dans ce podcast de l'émission, les références aussi de l'émission de Carrément Bien. On vous écoute et merci.
Tout à fait. Effectivement, l'émission Carrément Bien a été lancée il y a à peu près 3 ans maintenant. Et les témoignages sont très forts, sont extrêmement percutants et nous montrent à quel point, quelle que soit la vie, elle peut être extrêmement brisée. Il y a une espérance parce que le Christ est là et il peut relever toute personne. Donc, c'est des témoignages de différentes sortes. Par exemple, il y a des personnes qui étaient musulmanes et qui sont devenues chrétiennes. Il y a des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. D'autres qui ont eu des apparitions de la Vierge Marie, de Jésus. Il y a encore des personnes qui étaient gays ou transgenres, qui sont devenues des témoins vivants pour notre époque. Et ça, c'est extrêmement percutant aussi. Donc voilà, un petit peu différents styles. Et pour vous partager, par exemple, le témoignage très, très bref de Nazir Siddiqui, donc cet homme qui était musulman et qui va développer un zona extrêmement poussé. Il va se retrouver au bord de la mort et voilà qu'il va crier vers Allah, vers Mahomet. Mais la nuit, ce n'est ni Allah ni Mahomet qui vont venir, mais c'est Jésus-Christ en personne qui va se tenir au pied de son lit et qui va lui dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob ». Et ensuite, il va être complètement guéri de son zona. Et ça, il va devenir bien sûr ensuite un témoin extrêmement puissant. Il témoigne dans le monde entier, on a pu l'interviewer. Et voilà, c'est un des témoignages, il y en a beaucoup et c'est extrêmement édifiant. On a beaucoup de personnes aussi qui nous témoignent qu'elles ont pu se convertir en fait grâce aux témoignages qu'elles ont entendus pour se rendre compte à quel point, Dieu est là et il agit dans nos vies. Et donc, tout le monde peut se tourner vers lui, quel que soit notre bagage spirituel, qu'on soit croyant ou non croyant, tout le monde peut se tourner vers Jésus et dire « Jésus, je ne te connais pas. Mais si tu existes réellement, Montre-le-moi et je te donnerai ma vie.
Merci, Lucie. Alors, on va un petit peu plus loin, voilà, sans faire une intrusion aussi dans vos vies, dans cette première partie de Vivante Église. Qu'est-ce qu'il fait comment vivez-vous quotidiennement votre vie de prière, vos engagements? Donc, vous êtes tous célibataires. Que s'est-il passé? Vous avez un appel particulier? Vous avez répondu à l'appel de Dieu dans le célibat? Racontez-nous un petit peu cette histoire et puis cet engagement que vous vivez.
Alors, moi, personnellement, c'est vrai que assez rapidement, je me suis posé la question de la vocation, comme beaucoup. Enfin, c'est normal de se poser cette question quand on est jeune, surtout que je m'étais convertie, j'avais environ 19-20 ans. Et j'ai cherché, Seigneur, qu'est-ce que tu désires pour ma vie? Et en priant, je creusais, je faisais des retraites, etc. Et puis, c'est vrai qu'à Medjugorje, le Seigneur m'a vraiment mis au fond du cœur qu'il désirait que je te donne ma vie pour l'évangélisation. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui ce jour-là, et c'est vrai que depuis, le Seigneur m'utilise et utilise les jeunes du groupe d'une manière extraordinaire pour l'évangélisation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en présentiel dans le monde entier. On a voyagé dans le monde entier, il y a une quinzaine d'années, dans le monde entier. Et il nous utilise vraiment pour sa gloire, et on se met à son écoute, voilà. Donc, jour après jour.
Vous ne pouvez pas rentrer en communauté, vous n'êtes pas religieuse.
Maintenant, je ne suis pas religieuse, je suis une laïque dans le monde, et en même temps, voilà, je fais des vœux privés de célibat pour le Seigneur et pour l'évangélisation. Et je travaille, et en même temps, voilà, je travaille et j'œuvre pour Dieu en même temps.
Oui. Il en est de même pour vous, Lucie? Vous
êtes tout à fait laïque consacrée
avec un travail, vous travaillez dans le monde?
Alors, autrefois, il y a quelques années, j'étais prof d'allemand en collège-lycée pendant une dizaine d'années, et maintenant, effectivement, je travaille pour l'association au service de la chaîne YouTube.
Donc, vous êtes à plein temps donc, pour la chaîne et au service à plein temps pour l'évangélisation.
Pour l'évangélisation, exactement.
Ah oui. Je vais vous proposer de vous retrouver dans ce Vivante Église dans quelques minutes. J'inviterai aussi les auditeurs qui vous découvrent à aller plus loin en découvrant aussi votre chaîne YouTube. Et si certains se posent des questions, peut-être des parents ou des grands-parents qui ont des enfants. Et effectivement, il y a de très puissants témoignages dans l'émission de Carrément Bien. Je vous propose de vous retrouver l'une et l'autre. On va vous découvrir un peu, même beaucoup, je crois. Dans l'appel que Dieu a fait et l'appel qui repose aussi dans vos vies et dans vos cœurs. À tout de suite. Thank you.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Vous êtes toujours à l'écoute de Vivante Église. Dans cette seconde partie, nous allons entrer dans l'intimité du cheminement spirituel de nos deux invités que vous avez découverts il y a quelques minutes, Lucie et Marthe, membres engagés à la Fraternité Notre-Dame de la Lumière, ou NDML. Elles vont vous partager, donc restez bien à l'écoute. En vérité, avec profondeur, comment leur rencontre avec Jésus, aussi à travers ce cheminement au sein de la fraternité, a littéralement transformé leur vie. Alors, je ne sais pas qui va commencer dans cette transformation. Au fond, on va parler de changement de vie, on va parler de conversion. Peut-être Lucie, pourquoi pas. Tout à l'heure, on a débuté ce Vivante Église avec Martin. Je me tourne vers Lucie et je vous remercie d'avance pour le témoignage que vous allez donc nous délivrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans votre cheminement, dans votre vie et au fond, ce qui vous conduit aujourd'hui à tout donner et à donner votre vie dans la vie consacrée et au service de l'Évangile. Merci Lucie.
Merci à vous. Eh bien, alors, moi, je suis née dans une famille qui était catholique. J'ai trois frères. Et c'est vrai qu'on a été élevés dans la foi chrétienne. On allait à la messe le dimanche. On se confessait deux fois par an. Donc, j'ai eu tout le bagage spirituel pendant l'enfance. C'était même une famille mariale. Donc, on allait de temps en temps aussi faire des pèlerinages à la Délivrance, Notre-Dame de la Délivrance notamment, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, en grandissant, j'ai fréquenté les jeunes qui étaient autour de moi. J'avais notamment une bande d'amis, de personnes proches, qui malheureusement pour moi étaient des mauvaises fréquentations et qui m'ont initiée à toutes sortes de films malsains, des films d'horreur, d'impureté, etc. Et ça a eu notamment pour conséquence que j'ai commencé à avoir des angoisses terribles, un sentiment d'insécurité. Alors, je ne faisais pas forcément le lien sur le moment parce que, il faut aussi connaître le fonctionnement des lois spirituelles et ça, on ne le sait pas si on n'est pas initié à ça. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que j'ai commencé aussi forcément à faire comme les autres jeunes, donc à aller en boîte de nuit, à fréquenter les soirées, etc. Il y avait beaucoup d'open bar dans les écoles de commerce, etc. L'alcool coulait à flot, on devait y aller en botte et il y en avait tellement partout sur le sol. Et c'est vrai que c'est malheureusement le lot commun actuellement des jeunes, des étudiants, etc. Mais moi, ça ne me satisfaisait absolument pas. C'est-à-dire que je n'étais pas comblée. Quand je revenais de ce genre de soirée, je me sentais extrêmement vide et je ne voyais pas ce que ça apportait. Sur le moment, il y a l'enthousiasme de se retrouver avec d'autres jeunes, mais ça ne nourrit pas, ça ne me nourrissait pas intérieurement et ça me laissait insatisfaite. Et puis, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à fréquenter un garçon. On est restés plusieurs années ensemble. Et donc, on cheminait, malheureusement, pas selon Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que 4 ans plus tard, il m'a laissée, du jour au lendemain. Et c'est vrai que moi qui comptais me marier avec lui, etc., ça a été vraiment un moment difficile. Et je pense que peut-être certains qui nous écoutent connaissent ce genre de douleur, de souffrance, parce que les liens d'âme qui se créent avec une personne, elles sont extrêmement profonds. Donc, quand il y a une rupture, quand il y a un arrachement, ça vient de très loin et ça peut détruire une personne. Donc, à ce moment-là, je me suis vraiment effondrée. En plus, j'étais dans les préparations de mes entretiens pour les écoles de commerce. Donc, à un moment aussi extrêmement sous pression, stressée. Je devais avoir toutes les connaissances en tête, etc. Et donc, du coup, je me souviens de mon papa et de ma maman qui m'ont beaucoup soutenue, bien sûr, qui priait pour moi. Mon père entrait et il venait se mettre au pied de mon lit pendant que je pleurais. Et puis, il priait son chapelet, il priait pendant que je pleurais. Et ça a été un grand soutien pour moi. Et le Seigneur est bon parce que je pense que toutes ces prières aussi ont préparé ma conversion. Puisque à peine un mois et demi après, mon frère qui avait fait la connaissance de la communauté de l'Emmanuel m'a conseillé d'aller à Paray-le-Monial. Il y avait un forum pour les jeunes. Donc, c'est une communauté du renouveau charismatique. Je ne connaissais personnellement absolument pas le renouveau, puisqu'on était plutôt traditionnel à la maison. Et j'y suis allée. Et en fait, quand je suis allée là-bas, j'ai été émerveillée par tous ces visages qui étaient remplis de joie, remplis d'innocence. Et quelque chose que je n'avais plus, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, dans mon cœur, il n'y avait plus cette joie, il n'y avait plus cette paix. Et il y avait ce profond mal-être. D'ailleurs, j'ai retrouvé encore des extraits de mes journaux intimes de l'époque où j'écrivais « je me sens mal, je ne sais pas pourquoi, c'est quoi cette vie, etc. » Donc, il y avait un mal-être qui était là, il y avait donc toutes ces angoisses. Et en fait, quand je suis arrivée sur ce lieu, donc j'ai vu tous ces jeunes et j'ai été poussée à un moment donné à aller me confesser. Donc, un sacrement que je faisais quand même habituellement, puisque je le faisais deux fois par an, mais sans finalement connaître la réelle signification et l'impact qu'a ce sacrement lorsqu'on en use en connaissance de cause. Et en fait, lorsque je suis allée me confesser, eh bien là, vraiment, mon cœur a été touché. En fait, on sait que le sacrement de la confession, c'est un lieu où on est purifié de nos péchés, mais ce n'est pas seulement ça. La confession, c'est un lieu aussi de délivrance et c'est un lieu de restauration, de guérison intérieure. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que quand je suis sortie de la confession, mon cœur était guéri. Mon cœur qui était meurtri, qui était souillé, etc., le Seigneur l'a libéré, l'a guéri, l'a purifié. Et à partir de là, la paix a pu rentrer dans mon cœur, la paix et la joie. Et après, j'ai commencé à chanter, à danser avec les autres jeunes, autant de louanges, alors que depuis le début, je ne disais absolument rien et j'étais très mal. Et c'est vrai que ce sacrement de la confession m'a sauvée. En fait, il m'a complètement transformée. Et à partir de là, eh ben, ça m'a posé des questions. Je me suis dit, mais ce Jésus dont on m'a parlé au cours de Caté, alors il est vraiment vivant? Alors il s'occupe de moi, il s'intéresse à moi personnellement, pas seulement de ceux qui ont réellement besoin, comme les pauvres, etc., dans les bidonvilles. Et il y a eu une quête qui a commencé à ce moment-là, une recherche vraiment de Jésus, et j'ai eu soif. Alors, j'ai commencé à aller à la messe en semaine, j'ai commencé à prier, et puis, petit à petit, ben, le Seigneur a mis sur ma route les jeunes de la fraternité NDML, parce que je n'étais pas avec eux au tout début. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ils m'ont initiée à la lecture de la parole de Dieu.
Permettez-moi, comment les avez-vous rencontrés, cette fraternité NDML?
Eh bien, en fait,
vous avez appelé ce premier moment-là?
Je me souviens très, très bien
le partager à l'antenne maintenant.
Bien sûr, bien sûr. C'était un soir où j'allais à la messe à l'église Saint-Étienne à Caen. Et en fait, la personne qui faisait la première lecture, c'était Alberto. Et en fait, il s'avère qu'Alberto était avec moi. On était ensemble à l'école.
Alors,
dans la même classe.
C'est Alberto Malouf qui est cofondateur de NDML, l'association Notre-Dame de la Lumière, et qui intervient aussi. Voilà, et je l'annonce aussi pour les auditeurs de cette émission Vivante Église, et très actif aussi au service de l'évangélisation. Il est lui-même franco-libanais et médecin urgentiste. Voilà, on écoute la suite. Et merci.
Je vous en prie. Et donc, effectivement, ben, Alberto, comme on était dans la même classe lorsqu'on était au collège, je l'ai reconnu. En fait, je l'ai reconnu qu'il faisait la lecture. Et donc, à la fin de la messe, je suis allée le trouver. Et il y avait déjà Marthe qui était là. Et donc, on a pu échanger. Et à partir de là, ils m'ont invité à venir aux maraudes. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé à faire des maraudes avec eux. Et en fait, ils avaient un tel zèle. C'est vraiment comme ça que j'étais extrêmement touchée. Un zèle, une connaissance de la parole de Dieu et un désir de sainteté. Et là, je me suis dit, mais purée, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je veux ça, je veux tout ça. Et donc, c'est à partir de là que je vais commencer à prier le chapelet et puis petit à petit, même le rosaire. Et du jour au lendemain, quand j'ai commencé à prier le rosaire, j'ai vu une protection spirituelle beaucoup plus grande, notamment dans mes pensées, etc. Enfin, la prière vraiment agit efficacement. Il y a un barrage de protection qui est réel lorsqu'on prie et qu'on suit les voies du Seigneur. Et donc voilà, j'ai commencé à fréquenter la fraternité NDML et petit à petit, eh bien, le désir voilà, de vivre le célibat consacré pour le Seigneur est né et j'ai fait ces vœux du coup de célibat consacré au sein de la fraternité.
C'est une grâce particulière hein, quand on prononce ces vœux de célibat consacré. Quelles sont un peu les grâces, les fruits d'un tel engagement parce que vous êtes laïque, vous n'avez pas fait le choix de rentrer dans une communauté ou dans un monastère, mais de rester au fond, au cœur du monde pour être peut-être au cœur d'une mission active dans l'évangélisation. Alors,
exactement.
Je veux tout savoir. Non, on veut tout savoir. Non, non.
Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, cet appel, il est venu... c'est Dieu, en fait, qui appelle. Ce n'est pas d'abord nous qui choisissons, c'est Jésus qui appelle et on ne fait que répondre à cet appel. Et j'étais extrêmement heureuse et comblée de pouvoir faire ce choix du célibat consacré. Donc concrètement, effectivement, donc on ne se marie pas, on n'a pas d'enfants. Et c'est vrai que le temps finalement qui est disponible, on le consacre à la mission. Donc c'est pour ça que ça nous permet d'être au cœur du monde. La vocation consacrée contemplative, cloîtrée est extrêmement belle. C'est un appel qui est particulier. Et c'est vrai que ce n'est pas mon cas personnellement. C'est une vocation au sein du monde qui nous permet eh bien, de continuer à côtoyer nos familles et puis de pouvoir évangéliser. Et ça, c'est un désir qui brûle notre cœur. Donc évangéliser à travers les réseaux sociaux, carrément bien, etc. Et puis au quotidien, parce que l'évangélisation, c'est aussi au quotidien le fait de, voilà, d'aller vers les personnes, de pouvoir leur délivrer un message, voilà, inspiré de Dieu.
Et là, ça sera la dernière question. Quelles sont vos joies de l'évangélisation?
Ah, les joies de l'évangélisation, elles sont énormes parce que le fait de pouvoir apporter un message, ne serait-ce que hier, on rentrait de la route là à Lourdes et on est allé parler, on a senti l'Esprit Saint nous inviter à parler à une petite jeune fille qui était là. Et à peine on lui a dit, mais on va prier pour toi. Tu sais, le Seigneur nous met dans le cœur de prier pour toi. Il a des projets de bonheur, il va t'aider. Et la jeune fille a fondu en larmes, en fait, aussitôt, parce qu'elle était dans une période vraiment de transition. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était toute chamboulée et elle se sentait mal intérieurement. Et elle a bien senti que c'était une consolation de Dieu. Donc, en fait, quand on voit l'Esprit Saint agir dans la vie des autres, bah, nous, ça nous comble de joie, en fait.
Alors, on garde la joie dans cette émission de Vivante Église. Et puis, on vous découvre, hein, NDML. Je me tourne vers vous, Martha, pour vous interroger aussi sur un peu ce qui s'est passé un peu dans votre histoire de vie et puis ce oui, ce grand oui que vous avez donné aujourd'hui à Jésus et que vous donnez aussi, tout comme Lucie, au service de l'évangélisation. Voilà, on vous écoute et merci.
Avec grand plaisir.
C'est le temps du témoignage dans cette deuxième partie d'émission.
Alors moi, je suis née dans une famille croyante, mais très libre. Voilà, nos parents ne nous forçaient absolument pas. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours dans mon cœur cru en Dieu, en Jésus, etc. Mais à l'adolescence, eh bien, ça m'intéressait moins, on va dire. Et surtout la messe, parce que quand j'allais à la messe et que j'entendais des chants que moi je nomme souvent d'après-guerre, c'est-à-dire, voilà, pour pas critiquer, mais un grand chant à moissonner, etc., je ne supportais plus. Et puis souvent, c'était des gens un peu âgés, il faut le dire, qui chantaient. Et je sortais de la messe et moi, j'imitais la personne qui chantait en exagérant les traits et en chevrotant tout ce que vous voulez. Et finalement, je critiquais même ces personnes. Et puis, très rapidement à l'adolescence, j'ai dit à mes parents, bon, bah, c'est bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je croyais toujours en Jésus dans mon cœur, mais je ne voulais plus de pratique. Et ça, c'est une grande erreur, parce que souvent, et peut-être même certains auditeurs qui nous écoutent se disent, moi,
certains parents,
oui, je crois,
ils se découragent.
Voilà, on se décourage, on se dit, je crois, mais j'ai pas besoin d'aller à la messe, j'ai pas besoin de ça, etc. C'est ce que je pensais vraiment. J'ai pas besoin de tout ça, et en plus, c'est pas toujours très agréable. J'avais pas compris vraiment le fond des choses. Et donc, j'ai laissé tomber toutes ces pratiques, voilà. Et j'ai continué mes études. Il se trouve que, après, je réussissais très bien à l'école. Donc, après mon bac, j'ai fait une école prépa, Hippocagne-Cagne. Et donc, je fais mon école d'Hippocagne. Mais il se trouve que j'étais loin de ma famille. C'est très difficile. Ce sont des écoles difficiles. On dort peu, on bosse comme des fous. Et arrivé à la période de décembre, j'ai commencé à avoir des idées noires. Parce que effectivement, quand on a Dieu, mais qu'on n'alimente pas cette prière par les sacrements, la messe, la confession, la prière, tout simplement, on n'alimente pas, eh bien, le feu petit à petit s'éteint. Donc, dire je crois, mais finalement je ne pratique pas, le feu s'éteint et j'étais en vrai danger. Et le diable guette ce genre de situation, parce que quand le cœur se vide, eh ben lui, il veut le remplir. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Donc, arrivé à la au mois de décembre, où ça commençait à être extrêmement dur, j'ai commencé dans ma petite chambre d'étudiante à avoir des idées noires. Je ne savais pas qu'il y avait un ennemi, le diable, qui rôdait comme un lion rugissant, nous dit l'Écriture, cherchant qui dévorer. C'était moi, il voulait, j'étais sa proie à ce moment-là. Et j'ai commencé à avoir des idées de suicide aussi dans ma petite chambre d'étudiante. Et pourtant, je n'étais pas une fille à problème, je n'étais pas une fille triste, etc. Mais c'est survenu comme ça. Et ce soir où j'avais des idées particulièrement sombres, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, le Saint-Esprit qui était dans mon cœur m'a rappelé que j'avais une Bible. Alors, c'était des études littéraires, j'avais une tonne de bouquins, mais j'avais gardé une Bible juste au cas où, hein, pour des références littéraires, c'est tout. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, je la lisais absolument pas. Le Saint-Esprit m'a rappelé dans mon cœur que j'avais une Bible. Donc, j'ai été la chercher, et puis j'ai ouvert comme ça, et je suis tombée sur un passage, j'ai mis mon doigt comme ça, puis j'ai commencé à lire. Je suis tombée sur Ecclésiastique 30 qui nous dit « Ne te laisse pas aller à la tristesse, ne te tourmente pas pour tes projets. La joie du cœur fait vivre l'homme et la gaieté prolonge ses jours, parce que la tristesse en a perdu beaucoup. » Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, c'est fou parce que c'était exactement ce que je vivais. Donc je me suis dit « La parole de Dieu me rejoint. » Mais tous mes combats spirituels, mes tristesses se sont évanouis d'un seul coup. Et je me suis dit « Moi qui ai lu une tonne de bouquins, j'en lisais. » J'ai aucun livre n'a fait ça dans ma vie. Il y a quelque chose de vivant dans cette parole qui a chassé mes tristesses, mes ténèbres. Et j'ai senti une joie profonde. C'était ma première expérience de Dieu à travers la parole de Dieu. Ma première expérience de Dieu. Alors j'ai poursuivi mon année, mais ce n'est pas pour autant que j'avais une pratique plus grande. Mais j'ai poursuivi mon année avec une joie quand même au fond du cœur, une joie nouvelle. Et puis, bah, comme j'avais des problèmes de santé depuis petite, j'ai une maladie auto-immune. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi. Maintenant, il y en a de plus en plus, des maladies comme ça. Eh bien, l'année était tellement difficile, on mangeait peu, on dormait peu, que j'ai fait une crise très grave de cette maladie. Et je ne pouvais plus m'alimenter parce que tout mon tube digestif avait des ulcères brûlés. Donc, je ne pouvais plus manger. Et arrivé à la fin de l'année, j'ai perdu tellement de poids que je ne pouvais plus marcher non plus. J'étais vraiment un sac d'os, c'était très faible. Et donc, j'ai passé tout mon été alité. C'était terrible. Mes parents ne savaient pas quoi faire. Donc, j'ai vu, vous pouvez imaginer, toutes sortes de spécialistes, de médecins. On savait ma maladie, mais on n'arrivait pas à traiter. On n'arrivait pas à me refaire manger. C'était terrible. Et quand vous êtes dans cette situation où il n'y a plus rien qui peut vous sortir de là, Eh bien, je me suis tournée vers Dieu, peut-être pour la deuxième grande fois de ma vie. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai fait l'expérience de toi, je te connais dans ce que j'ai pu lire ou entendre quand j'étais plus jeune. Si tu peux faire quelque chose pour moi, si tu peux me sortir de là, alors fais-le, c'est le moment. Et je te fais une promesse. Et pour moi, c'était la promesse la plus grande que je pouvais faire. J'irai à la messe 9 jours de suite, une neuvaine de messe. Moi qui avais horreur de la messe et de ses chants et de ses vieilles personnes, et voilà. Je ferai 9 jours de suite, c'était le summum de ce que je pouvais offrir. Et il se trouve que le lendemain, alors j'ai pas une guérison totale de cette maladie, mais j'ai eu une rémission extraordinaire de cette crise. Le lendemain, je n'avais plus aucune douleur. Donc j'ai pu manger, me réalimenter, tout passait. Donc tout l'été, j'ai repris du poids et j'ai pu faire ma deuxième année à l'école de Cagnes, que j'ai eu aussi. Enfin, c'était un miracle. C'était un miracle parce que personne n'arrivait à me sortir de là. Donc j'ai dit, Seigneur, à la rentrée, quand j'ai repris des forces, je vais faire ce que je t'ai dit. Je vais faire cette neuvaine de messe. Donc j'étais à la messe 9 jours de suite. Alors ça chantait toujours aussi faux, pardon. Le cadre était toujours le même, mais mon cœur avait changé. Et en fait, ce qui s'est passé au bout de ces 9 jours, je ne pouvais plus me passer de la messe. J'ai compris la profondeur de l'Eucharistie que Jésus fait vraiment cœur à cœur avec nous, une union tellement profonde que le ciel touche la terre, quoi. Mon cœur était transformé, mon être tout entier revivait, enfin, et je ne pouvais plus, et j'avais 20 ans, je ne pouvais plus me passer de la messe, et depuis ce jour, j'y vais tous les jours, et j'ai trouvé une nourriture tellement profonde pour mon âme que je suis un amour du Christ qui a complètement transformé ma vie. Donc ça a été le début vraiment d'un nouveau départ avec le Christ très profond.
Alors, merci à toutes les deux. Alors, on entend donc que vous brûlez d'amour pour Jésus, que vous brûlez de passion aussi pour annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle de l'Évangile. On n'a pas parlé encore d'un rendez-vous, un rendez-vous aussi qui fait partie intégrante de la mission de l'association NDML. On parle de prière, on parle de la Bible, de la parole de Dieu que vous méditez. Vous priez, et puis il y a cette fidélité qui réunit, alors je reviens un peu à la mission d'évangélisation de service, mais qui ne quitte pas la prière. J'ai ce chapelet entre les mains, il y a un rendez-vous tous les soirs, donc je l'annonce dans cette émission de Vivante Église, c'est le rendez-vous que vous donnez donc à une multitude d'auditeurs, de téléspectateurs via la chaîne YouTube, en direct à 19h30, vous priez. Le chapelet, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du chapelet dans l'histoire de l'association NDML, Lucie ?
Oui, tout à fait. Le chapelet a toujours été extrêmement pour nous, important pour nous, parce que lorsque Jésus a dit au pied de la croix à Jean, « Voici ta mère », on est convaincu que ce n'est pas seulement à Jean que Jésus l'a dit, mais il l'a dit à chacun d'entre nous. Et on voit bien que dans la vie de Jésus, Marie a finalement été toujours présente. Jésus est resté 30 ans avec la Vierge Marie. Ensuite, pendant sa vie publique, Marie était encore sur les routes et jusqu'au pied de la croix. Donc Marie a toujours été proche. Si Jésus lui-même ne s'est pas passé de Marie, eh bien on pense que nous non plus, nous ne pouvons pas nous passer de la Vierge Marie. Nous avons besoin d'elle. Une maman n'est pas accessoire, une maman est indispensable et Marie est notre mère. Donc concrètement, eh bien oui, nous prions en communauté le rosaire, donc chaque jour 4 chapelets, et dont un chapelet qui est en live tous les soirs à 19h30 sur la chaîne YouTube. Et ce chapelet a commencé eh bien, au moment du Covid. À ce moment-là, eh bien, on ne pouvait plus se retrouver à l'extérieur, donc on s'est dit, plutôt que de le faire juste entre nous, on va le mettre en live sur YouTube afin que tous ceux qui désirent le prier puissent eh bien, le faire avec nous. Et on a eu encore des retours, là encore ce matin, des gens qui me disaient, mais ça nous a beaucoup aidé parce qu'à ce moment-là, pendant le Covid, on se sentait mal, insécure, enfin, c'était une période vraiment de trouble, et le fait de pouvoir avoir une communauté de priants comme ça, eh bien, ça nous a beaucoup sécurisés et rassurés. Et en fait, à partir de là, le nombre de...
Vous avez fait une explosion.
Exactement.
C'est combien de personnes aujourd'hui qui
suivent le chapelet ?
Suivent et prient le chapelet.
Entre 40 et 50 000 tous les jours. Voilà, ça, ce sont les personnes qui suivent le chapelet, et sinon, en termes d'abonnés de la chaîne, on est à plus de 600 000.
Vous avez été dépassée, vous avez été vous-même surpris, Martha et
oui,
Lucie.
Oui, mais je crois que la Vierge Marie...
C'est une explosion
d'abonnés. Oui, c'est énormément d'abonnés, mais en fait, le fait qu'il y ait autant de monde qui prie ensemble, il y a des grâces tellement incroyables, parce que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit Jésus. Donc quand vous êtes des milliers comme ça à prier ensemble, pour les intentions des uns et des autres, les grâces, les fruits tombent, pleuvent, et on reçoit des milliers de témoignages de grâces reçues, mais de choses incroyables, des restaurations de famille, des guérisons, des conversions, des enfants qui s'en sortent, des obtentions de diplômes, etc. On reçoit tellement, et les gens ne peuvent plus s'en passer du coup, parce qu'ils...
Même des gens qui nous disent, moi, alors le chapelet, j'étais à milieu de tout ça, même la Vierge Marie, enfin voilà. Et ils ont mis le pied à l'étrier et aujourd'hui, ils voient tellement de grâce dans leur vie, tellement de changements dans leur vie, qu'ils ne peuvent plus s'en passer et qu'ils le suivent tous les jours, et même qu'ils en disent parfois plusieurs fois par jour, ce qui est incroyable. Je pense que le chapelet, il ne faut pas en avoir peur, il faut le l'essayer. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube NDML, tous les soirs à 19h30, on se connecte. En fait, c'est plus facile de dire nombreux ensemble, en plus c'est médité, on le chante aussi, etc.
Vous avez aussi la grâce, permettez-moi, vous ne l'avez pas annoncé en présentant NDML, mais la grâce aussi de la louange. Hein, c'est vrai, c'est aussi un point important.
On est tous musiciens, chanteurs,
voilà, qui accompagnent aussi la prière.
Oui, mais c'est vrai que dès le début, quand on s'est rencontrés, les jeunes, là, on se disait, mais moi j'aime chanter, moi j'aime jouer de tel instrument. On avait tous des talents de musiciens et du coup, on a aussi un groupe de louanges. Ouais, on a sorti des CD et tout ça. Et le but, c'est vraiment aussi, c'est d'amener Dieu aussi. Dieu habite les louanges de son peuple et la louange, il y a une joie particulière. Donc, ces chapelets sont très joyeux et édifient l'âme. Il y a quelque chose de très, très beau.
Quels sont les retours de ces temps aussi de chapelet, Lucie? Au fond, c'est une grande communauté, tous les soirs, entre 40 000 et 50 000 personnes qui se réunissent autour de cette prière du chapelet. Ouais. Prière du chapelet méditée et puis chantée aussi. Et donc, prière du chapelet portée dans la douceur et dans la joie aussi de la louange.
Exactement, parce qu'on a l'habitude de chanter le dernier Je vous salue Marie de chaque dizaine. Et d'ailleurs, on est en train de préparer là le CD des Je vous salue Marie chanté parce que on a beaucoup, beaucoup de demandes de personnes qui disent, quand le Je vous salue Marie est chanté, ça nous aide aussi à prier. Donc, on va sortir un CD juste de Je vous salue Marie chanté. Là, on est en train de le préparer.
C'est un lieu de guérison aussi. Il faut commencer de la prière du chapelet.
Complètement.
Habité par la louange aussi.
Exactement, parce qu'effectivement, une fois par semaine, le dimanche soir, après le chapelet, on fait un temps de louange tout particulier, où là, on invoque l'Esprit Saint, on prend un chant moderne. Et ensuite, on se laisse porter par l'Esprit Saint. Et clairement, oui, l'Esprit Saint agit. C'est-à-dire qu'il vient délivrer, il vient guérir, il vient apporter la lumière, il vient relever ceux qui sont découragés. Et oui, le chapelet, la louange, tous ces moments de prière sont extrêmement forts. Et voilà, comme le disait Marthe, on reçoit beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui sont touchées par des paroles qui sont dites, par la prière elle-même du chapelet, et qui permet à des familles de se réconcilier. Ou des personnes qui se sont éloignées de l'Église depuis, on a eu parfois 40 ans ou 50 ans, et qui, après 50 ans retournent se confesser ou reviennent à l'église. Donc, ce sont des énormes victoires, des fruits qui sont magnifiques.
Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, un peu avec un peu de recul, le public?
Ah oui, il y a tout public.
Il y a tout public.
Donc, c'est un large public. Des familles qui prient en famille avec leurs enfants et qui ont vu leur vie de famille complètement transformée. Et il y a des gens, parfois de plus de 90 ans, même des gens dans les hôpitaux. On a tout public, vraiment.
Donc vous êtes aussi, vous animez aussi parfois des week-ends, vous êtes appelé aussi pour animer des soirées, donc des soirées de louanges, des soirées de guérison. Si je devais vous demander, ça sera aussi pour conclure un peu ce Vivante Église avec NDML, quel est le charisme de cette petite fraternité qui grandit?
C'est vrai que notre...
En quelques mots.
Oui, notre devise c'est à Jésus par Marie. Et donc, c'est annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier, comme l'a dit Jésus, aller dans le monde entier, annoncer l'évangile aux nations. Et on le fait par l'intercession de Marie, qui est dans ce monde, est celle qui est la médiatrice, la trésorière, comme dit Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, trésorière de toute grâce. Et on voit les fruits se démultiplier par son intercession.
Vous avez aussi un accompagnateur ecclésiastique, un accompagnateur pour votre fraternité?
Oui, on est du diocèse de Bayeux-Lisieux et donc on est accompagné par notre diocèse officiellement, oui.
Et pour vous, ça sera le dernier mot et je vais vous remercier bien sûr de vos interventions. Merci pour votre joie aussi, merci pour vos engagements, pour les oui que vous avez donnés et puis ce grand oui aussi à répondre à la mission d'évangélisation dans un monde troublé, un monde compliqué aujourd'hui et puis on le sait, combien de personnes se découragent, combien de personnes sont éprouvées et donc merci de ce oui à la mission. Lucie, dernier mot pour conclure.
Le tout dernier mot, c'était pour confirmer ce que disait Marthe. Notre charisme, c'est vraiment une spiritualité mariale et ce désir d'évangélisation. Donc, comme vous le disiez, on est invité un petit peu partout pour annoncer le Christ, animer des messes, des baptêmes, des mariages, etc. Et puis aussi, prier pour les personnes malades. Donc, sur demande, en fonction de nos agendas, on répond à tous ces temps.
Alors, dans cette émission en podcast, il y aura toutes les informations vous concernant. Et donc, si on vous appelle pour la mission, vous pouvez répondre. Après, j'imagine, quelques discernements. Lucie et Marthe, merci de votre présence dans ce Vivante Église et nous vous souhaitons une très belle mission donc au cœur du monde. Merci.
Merci à vous.
Merci à tous.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.